Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario! Ouais,
je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Alors, le tennis féminin, vous dites, donc, c'est de plus en plus sexy, donc, c'est de plus en plus le look, la beauté, les love stories, les scandales. Les critères athlétiques disparaissent au profit des critères esthétiques. C'est quoi la commitment list?
Commitment list?
Oui.
La commitment list, c'est quand vous faites partie des 20 meilleures joueuses du monde. Les directeurs de tournoi choisissent les meilleures joueuses qu'ils veulent avoir dans leur tournoi. Donc ils font, nous on aimerait avoir Ingis, Davenport. Donc elles, plus il y a de directeurs de tournoi qui les veulent, plus elles seront en haut de la liste, quoi.
Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le classement ATP, en fait.
WTA.
WTA pour vous. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est un classement sur le look et c'est pas un classement sur les qualités sportives.
Aussi sur les ventes de billets, quoi. Ils estiment que Ingis va plus vendre de billets ou Kournikova va plus vendre de billets que Julia Lahr ou que moi. Voilà, donc moi je suis 5e mondiale et sur cette liste je suis 16e, quoi.
Hello les légendes et bienvenue pour ce 59e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA avec un maximum d'acteurs de ce milieu, joueurs, joueuses évidemment, mais aussi des coachs, prépa mentaux, physiques, agents, directeurs de tournoi ou encore des consultants. C'est une femme que j'ai aujourd'hui au micro, enfin une touche féminine sur ce podcast de macho. Et c'est un des monstres du tennis français, excusez l'expression, mais j'ai pas trouvé mieux, tant son palmarès et sa carrière sont impressionnants. Il s'agit de Nathalie Tauziat, qui est montée numéro 3 mondiale et numéro 1 française grâce à un changement total de style de jeu. Nat nous livre sa particularité pour progresser année après année, dans son jeu en général et au service en particulier. C'est cadeau si vous êtes en difficulté avec ce coup. On revient sur sa finale en grand chelem à Wimbledon en 98 et le niveau de jeu hallucinant qu'elle a réussi à déployer cette semaine-là. Tauziat nous raconte la fois où elle a fait pleurer Serena Williams, le prize money douteux de son sacre à Moscou, sa carrière prestigieuse en double et ses participations aux Masters de fin d'année. On parle de l'ambiance dans les vestiaires à l'époque des Agassi, Sampras, Graf, Hingis ou encore Monica Seles. Notre invité nous sort deux anecdotes sympas en compagnie de Steffi et Martina la Suissesse. Nat revient pour nous sur ses trois participations au JO, le titre en Fed Cup avec ce druide de Yannick Noah comme capitaine. Et on termine en parlant argent, dotation de matos, fringues et raquettes, Open Cup, cette exhibition par équipe en Australie. Notre invité nous partage son point commun avec Roger et son regard d'expert sur le trio de monstres qu'il forme avec Novak et Rafa. Pour finir, j'essaie de comprendre pourquoi Nathalie Tauziat a réussi et ce qui fait la différence par rapport aux milliers de joueuses qui échouent là où elle a explosé un nombre incalculable de barrières pour accéder au podium du tennis mondial. Pour rappel, on a sorti notre seconde masterclass avec le coach d'anthologie Sam Sumik, qui a accompagné Azarenka et Muguruza numéro 1 mondial. C'est un cours de plus d'une heure, divisé en 9 parties. Sam nous met à disposition ses 15 années de circuit et son incroyable palmarès pour réussir à comprendre son joueur, négocier tes périodes de crise, gérer au mieux la communication dans une équipe, maîtriser tes émotions, dépasser tes blocages mentaux, techniques et physiques, te fixer des objectifs ou encore préparer et débriefer tes propres matchs. On a mis en place un système d'abonnement pour recevoir un nouveau cours avec un expert du circuit tous les 15 jours. Et si tu veux recevoir la masterclass de manière indépendante, c'est aussi possible. Écris-moi simplement à max@tennislegende.fr. Si tu veux t'abonner, c'est le premier lien juste en dessous en description. Place à notre 59e épisode avec une légende du tennis français. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
Alors, bah déjà, merci beaucoup d'avoir accepté. Désolé pour le léger retard.
Il n'y a pas de problème. À Paris, on n'est jamais à l'heure, je crois.
Eh bien, figure-toi que j'habite Biarritz. On n'est pas loin.
Ah ouais, bon, bah d'accord. Alors, j'ai rien dit alors.
aucune excuse.
Moi, je suis à Paris, c'est pour ça en ce moment.
Ah, d'accord.
Moi, je suis à Paris. Non, mais ça va, il pleut à Biarritz. Donc là, j'évite le mauvais temps. Donc, c'est pas mal déjà.
Ouais. Parce que sinon, toi, tu es dans les Landes, non, c'est pas ça?
Non, j'habite Anglette.
Ah, Anglette.
Non, j'habite Anglette.
D'accord, ok.
Ouais. Parce que dans le quartier des Cinquantons, là, pas loin.
Ah, très bien. J'ai pour habitude de commencer avec le surnom de mes invités. J'espère que ça ne te dérange pas.
Alors, c'est quoi mon surnom? J'écoute. Oh,
j'ai mis Nat, du coup, j'ai fait facile. Hein.
Oh, ça va, ça va.
Ça va? Bon, très bien. Alors, on y va, impeccable. Alors, Nat, tu es né le 17 octobre 67 à Bangui, en République centrafricaine, entouré donc par le Cameroun, le Tchad, le Soudan et le Congo. Comment ça se fait que tes parents déjà avaient atterri là-bas?
C'est mon père qui avait décidé. Bon, mon père était basque et comme on sait que les basques voyagent pas mal, il avait décidé à l'âge de 25 ans de partir. Il a eu une opportunité par un job qui se faisait en Afrique pour une société qui s'appelait Brossette à l'époque. Ouais. Et voilà, il a voulu partir à l'aventure, quitter le Pays basque et partir à l'aventure.
Ok. Tu as été joueuse de tennis professionnelle de 84 à 2003. Troisième mondiale à ton meilleur sur le tard à 32 ans. Tu as été finaliste à Wimbledon en 98, quart à Roland et à l'US en simple, demi à Roland, Wim et finale à l'US en double. Finale du Masters de fin d'année en double et demi en simple. Ça pèse, comme on dit. Tu as été longtemps numéro une française. Tu as été très régulière, 11 ans dans le top 20 mondial. Et précisément 14 ans et 9 mois top 50. À ce jour, seule Martina Navratilova et Chris Evert ont dépassé ce record depuis l'instauration du classement WTA en 75. Chapeau, Nat.
Belle recherche.
Oui. Ce qui explique mes 10 minutes de retard parce que j'ai été dépassé par le palmarès.
Bon, si c'est pour ça, c'est bien. Parce que même moi, je ne le savais pas.
Tu étais vainqueur de la Fed Cup en 97 avec pour capitaine Yannick Noah et coéquipières Marie Pierce, Sandrine Testu, Alexandra Fusé et Anne-Gaëlle Sido. Tu as d'ailleurs un record sur le tour contre le Japon en 97. Toujours, donc cette année-là, tu gagnes un match épique 17-15 au troisième, match qui compte le plus de jeux de l'histoire de la Fed Cup. Tu as gagné ton premier titre WTA à Bayonne en 90 contre l'Allemande Anke Huber en finale, ancienne quatrième mondiale. Il avait quel prestige ce tournoi à l'époque?
Le prestige, c'est que c'était chez moi.
D'accord.
C'est-à-dire dans mon Pays Basque.
Ouais.
Voilà, mes parents étaient là, ce qui était très rare. Ils venaient jamais sur les tournois, donc moi, mes parents étaient là. Mon père, il faisait les 100 pas en haut des tribunes, comme ça, il marchait. Donc après, à la fin de chaque match, je lui disais « Mais arrête de faire tes 100 pas, là, tu me stresses plus qu'autre chose. » Et puis ma mère, elle était en bas dans la loge, tranquille. Il n'y avait pas un cil qui bougeait. Elle avait même mis ses lunettes noires le jour de la finale. J'ai cru qu'elle était en deuil le jour où je jouais ma finale.
Ah ouais, à ce point-là.
Elle stressait tellement qu'elle se cachait, quoi.
Au fil des interviews, j'ai vu qu'il y avait un gros tournoi à Biarritz aussi à l'époque. Mais en termes de catégorie de tournoi à Bayonne, ça représentait quoi comme l'équivalent aujourd'hui?
Alors, c'était un tiers 4. C'est-à-dire que tu as les meilleurs, c'est tiers 1, tiers 2. Non, c'était même un tiers 3, je crois.
Ouais,
voilà, c'était pour moi, c'était je venais de rentrer dans les peut-être 50 à cette époque. Et voilà, j'avais gagné mon premier, on va dire, entre guillemets, gros tournoi sur le circuit, quoi. Parce qu'il faisait partie du circuit international.
Et ce tournoi a disparu à cause de… Il coûtait trop cher au club ou quelle était la raison, tu sais?
Bah, ce tournoi, il a disparu parce que financièrement, il n'a pas pu, voilà, il n'a pas pu tenir, quoi. Il y a eu beaucoup de dettes, je crois, et voilà, il n'a pas pu gagner.
Donc, tu as rapporté 33 titres pendant ta carrière, 8 en simple et 25 en double. Tu as joué la Hopman Cup aussi avec Guy Forget en 93. Vous avez d'ailleurs fait demi et avec Cédric.
Ouais, et j'ai joué, avec Cédric aussi, j'ai joué.
Ouais, en 94, l'année d'après. Mmh. Tu as eu deux parties de carrière, une avec un style de jeu plutôt à plat et fond de court, donc première partie de carrière. Puis à 27 ans, tu décides de faire service volé. Bon, tu t'es pas mis à lifter non plus, tu jouais toujours à plat, hein, mais beaucoup
mais
porté vers l'avant.
Ouais, le jeu plus vers l'avant, ouais, j'avais pas trop le choix parce que physiquement, j'étais pas au top pour à partir de 27 ans tenir du fond du court et courir comme une malade, quoi. Donc et puis c'était un peu le jeu que je voulais faire, en fait, je me suis découverte sur le tard, quoi.
D'accord. Et du coup, j'ai lu que tu as eu besoin de 2 ans d'acclimatation entre 94 et 96.
Ah ouais, c'est vraiment mes plus belles années sur le circuit. C'est les dernières années quoi, où vraiment je me suis éclatée. Même, je dirais, je me suis épanouie moi-même. Quoi. Voilà, dans ouais, le jeu.
C'était vraiment ta manière de t'exprimer davantage, d'aller vers l'avant, de volleyer, de claquer des points gagnants.
Ouais, de me faire plaisir sur le terrain, je crois que c'est important. Et je me faisais beaucoup plus plaisir et j'avais envie de continuer. Ça m'a donné envie de continuer à m'entraîner à fond pour atteindre d'autres objectifs. Quoi.
Ouais. Et mentalement, comment tu as réussi à vraiment faire le deuil de cet ancien style de jeu pour accepter la faute, l'erreur et pouvoir faire la diff sur le long terme?
On va dire que c'est ce qui a été le plus long, en fait. Le plus long, c'est mon jeu évoluait bien, mais après, il fallait que le mental suive carrément dans cette évolution. Et ce n'était pas évident pour moi parce que dans ma vie, je suis un peu quelqu'un, peut-être moins maintenant, parce que j'ai pris des coups, donc je sais en donner maintenant un peu plus, mais aussi je sais répondre. Mais je vais dire que voilà, j'étais quelqu'un un peu d'introverti. J'aimais pas me mettre en avant, j'aimais pas tout ça. Donc effectivement, quand on joue au service volé, qu'on va gagner des points à la volée, c'est quand même c'est de l'attaque quoi. Donc c'était pas évident à comprendre aussi le fait de que la faute fait partie de l'attaque quoi. Je veux dire, on prend des risques, donc automatiquement on fait des fautes.
Et risque payant, j'ai envie de dire, parce que quelle seconde partie
oui,
de carrière.
Oui, c'est vrai qu'à force de le faire, j'avais un coach qui relevait tous les matchs, donc on avait quelques statistiques, on regardait, et puis il a fini par me faire prendre conscience que finalement, quand je montais, je gagnais plus de points que j'en perdais. Quoi.
Ouais. Pour terminer ta présentation, tu as gagné l'Open Gaz de France en 2000 en mettant une rouste à Serena Williams en finale. Quelques semaines plus tard, tu as atteint le 3e rang mondial, ce qui fait de toi à 32 ans la 4e joueuse de l'histoire à accéder au top 3. En 2000, tu as publié un livre, « Les dessous du tennis féminin », un ouvrage dans lequel tu relates ton quotidien de joueuse professionnelle. Je te vois hocher la tête, pourquoi donc ?
Continue, on va continuer.
tu dénonces aussi dans ce livre le business du tennis féminin où l'amour tendrait selon toi à se substituer aux strictes performances sportives. Tu as entraîné après ça la Canadienne Eugénie Bouchard entre 2011 et 2013. Elle a été 5e mondiale en 2014. Puis une autre Canadienne, Alexandra Wozniak, 21e à son meilleur. Tu l'as entraînée de 2014 à 2016. A priori, donc, j'avais noté qu'on n'habitait pas loin, mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu diriges toujours le club de tennis à Cap-Breton?
Non, je l'ai vendu là. Okay. Parce que, bon, comme je voyageais de plus en plus pour le Canada, je me suis occupée aussi de Bianca Andreescu les dernières années là. Et puis après, je travaille aussi avec Harmony Tan en France.
D'accord.
Quand je suis en France et quand je peux, les semaines où je suis dispo, je suis avec Harmony. Et puis voilà. Puis après, je m'occupe de mes enfants aussi parce que j'en ai 3.
Et c'est Louis Borfiga qui t'a fait venir au Canada ou rien à voir? Tu avais ton réseau
Oui et non. C'est un peu moi qui… j'avais envie de faire des choses et donc j'ai envoyé mon CV au Canada. Et il se trouve que c'était Louis qui était le DTN à l'époque. C'est comme ça, en fait, que les relations se sont faites. J'étais à Moscou pour une présentation sur le revers à une main que je devais présenter. Et puis, il y avait des Canadiens qui étaient là. On a discuté, je les connaissais, on a discuté. Et puis, ils m'ont dit, on voit ton CV à Sylvain Bruno, c'est le responsable tennis féminin. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Ça paraît fou que Nathalie Tauziat, qui a été 3e mondiale, doive encore envoyer son CV. Mais au final, c'est une démarche comme une autre. Mais ça paraît quand même incroyable, quoi, non?
Oui. Oui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça s'est fait comme ça. Et puis voilà, ça s'est très bien fait. Ils m'ont appelé 2 mois après pour me dire qu'il y avait Eugénie Bouchard qui avait besoin de quelqu'un. Et puis, on a commencé un peu à travailler ensemble. Et puis, je crois qu'on a fait 2 ans et demi.
Mets-nous un like et abonne-toi à la chaîne avant de te faire la malle. Et on fait un rapide break pour te rappeler qu'on a enregistré 4 secrets de statisticien avec Fabs Barrault qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev. C'est une manière de te faire découvrir gratuitement les cours en ligne que l'on conçoit pour te faire progresser. Ces 4 secrets révèlent ce que la stat dit de ton jeu, tu vas vite le comprendre, c'est un outil puissant pour enfin cerner qui tu es sur un court de tennis. Tu peux aussi récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 13 top 100 pour arrêter de mouiller en match. C'est juste en dessous, c'est les 2e et 3e liens en description. Ok. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation? Est-ce qu'on a oublié même si
non.
on va soulever d'autres points, mais bon, a priori.
Non, c'est bon.
A priori, on est bon. Est-ce que tu peux nous rappeler à quel âge tu as découvert le tennis et ce que tu as ressenti? Est-ce que c'était en République centrafricaine ou c'était après du coup?
Alors, en République centrafricaine, je suis restée un mois et demi. Donc, si tu veux, je ne jouais pas au tennis encore. Mes parents m'ont mis dans l'avion à un mois et demi. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai la bougeotte un peu.
D'accord.
Et puis, non, j'ai commencé en fait à jouer au tennis au Tchad avec mon frère. Parce que mon frère jouait beaucoup tous les après-midi. Il était au tennis avec un pote, un copain à lui, dont le papa enseignait le tennis en fait. Et un jour, moi, j'étais un peu la petite sœur emmerdeuse qui était toujours derrière son frère. « Allez, emmène-moi au tennis, j'ai envie d'y aller. » Moi aussi, j'avais la bougeotte, hein, j'aimais bouger, j'étais tout le temps dans la piscine, tous les après-midi, je faisais du sport. Enfin bon, voilà, je tenais pas en place.
Ouais.
Et donc, mon frère voulait pas m'emmener parce qu'il avait envie d'être tranquille, je pense. Et puis, ma mère lui a dit un jour, « Écoute, tu vas finir par l'emmener quand même. » Donc, il m'a emmené, c'est comme ça. Je faisais du mur tout l'après-midi. Je tapais sur le mur. Et en fait, c'est le papa du lipote à mon frère qui m'a vu. Et lui, comme il donnait quelques leçons, il m'a donné mes premières leçons. C'est un journaliste, hein. C'était un passionné de tennis, en fait.
Ouais.
Mais c'était un journaliste au départ. Et il travaillait pour TF1. Il était envoyé spécial pour l'Afrique pour TF1. Et ce monsieur m'a donné la passion du tennis. Tout simplement.
Et le tennis au Tchad, alors le Tchad, déjà, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais le tennis au Tchad, ça ressemble quoi à cette époque-là?
Alors, j'étais à N'Djamena, donc la capitale du Tchad.
Ouais.
Et franchement, le tennis était super. On avait 10 cours en terre battue, super bien entretenus. Parce qu'à chaque fois qu'on finissait de jouer, il y avait des gars qui étaient là, ils nous passaient le filet, ils faisaient les lignes. Enfin, vraiment très bien entretenus. Donc, moi, voilà, j'ai pris mes premières leçons là. Mes parents n'étaient pas membres, mon frère était membre. Mes parents n'étaient pas membres, donc moi, ils m'ont mis membre. Et puis, pendant un an, il m'a donné des cours. La deuxième année, il y a eu un tournoi de jeunes. J'ai fait le tournoi de jeunes et j'ai gagné le tournoi. Et donc, j'ai eu ma première coupe, on va dire, en Afrique, quoi.
Très bon, ça. Raquette en bois, balle à l'ancienne.
Ouais, raquette en bois, balle blanche.
Balle blanche, ouais.
Ouais.
Incroyable, encore. C'est bon ça.
Il ne faut pas trop le dire parce que ça veut dire que je ne suis pas très jeune quoi, non, en même temps.
Ça fait partie de l'expérience, ça, c'est bon.
Ouais, voilà.
Et du coup, à partir de quel moment tu commences à rêver d'aller plus haut, d'aller plus loin? Est-ce que ça a été très rapide? Est-ce que c'est venu progressivement?
C'est venu, on est rentré en France en fait. Mes parents sont rentrés en France parce que malheureusement au Tchad, ça commençait à taper de partout, il y avait la guerre. Donc, on est vite rentré. Bon, mon père, on est rentré sur Toulon.
Okay.
Et sur Toulon, pendant un an, je n'ai pas beaucoup joué au tennis parce qu'on avait école l'après-midi. Moi, ça me changeait complètement. Quoi. J'avais un nouveau rythme. Tout me changeait. Et puis, au bout d'un an, j'ai demandé à mes parents si je pouvais quand même réinscrire à un club de tennis. Et puis, voilà, je me suis réinscrite à un club et je suis repartie comme ça. À fond la caisse avec le tennis, j'ai toujours adoré ça. Et voilà.
À quel âge t'es reparti du coup?
J'avais 10 ans.
Est-ce que tu peux nous faire ton évolution au classement français de non classé à numéro 3 mondial?
Oh, alors attends, je vais essayer de ne pas me tromper. Mon premier classement, ça a été 30. Après, je suis passé 15-3. Après, je suis passé 0.
Ah oui, c'est rapide, oui.
Ouais, là, j'ai fait un gros bond. Après, je suis passé moins 4. Après, je suis passée numéro 20, numéro 8, numéro 3, numéro 4 et numéro 1.
Waouh, incroyable.
Et au niveau mondial, je ne saurais pas vraiment te dire mes classements, mais bon, voilà quoi.
Ouais, voilà
quoi. C'est compliqué, mais moi, à l'époque, quand j'ai, ouais. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas, je ne sais pas maintenant, ils sont combien? Vous êtes 2000, non? Un truc comme ça, là.
Ouais.
Moi, on a été 200, 250.
C'est un autre monde.
Les moins bonnes classées étaient 50 et voilà, donc c'est pas le même monde.
Tu dis les moins bonnes classées mondiales étaient 50?
250.
Ah, 250, ok.
Ouais.
Incroyable. Et du coup, tu as fait partie rapidement de la Fédé, d'une structure, tu as joué les Grands Chelem Juniors?
Alors moi, j'ai jamais été à la Fédé.
Ouais.
Grande dame peut-être de la Fédé et de moi, je ne sais pas. Mais, non, moi, j'ai eu un coach privé toujours. Je me suis toujours débrouillée toute seule jusqu'à ce que je gagne bien ma vie et que je continue à me débrouiller toute seule. Quoi.
D'accord.
Au départ, c'est mon père qui a financé,
ouais,
mes parents. Et puis après, c'est moi. Dès que je faisais des tournois en France, je gagnais de l'argent et voilà, je remettais l'argent sur ma formation, entre guillemets. Quoi.
Donc, tu n'as jamais joué les Grands Chelem Juniors?
Non. Si, j'en ai joué un.
Lequel?
Deux.
Ah bah
j'ai joué Roland-Garros. Non, trois. Oh là, bah, là, ça remonte. J'ai joué Roland-Garros. Ouais. Roland-Garros une fois. J'ai joué où j'avais fait quart, je crois.
Après, ou c'est l'US Open où j'ai fait quart. Je sais pas, un des deux, j'avais fait quart. Et j'ai fait Wimbledon une fois.
D'accord. Et à partir de quel moment tu te prends à rêver d'être joueuse de tennis professionnelle? Et à l'époque, c'est quoi ton Graal à toi perso? À quel âge? Et c'est quoi?
Alors moi, j'ai jamais eu de Graal. Comment dire? Je me suis jamais mise dans la tête, j'allais devenir hyper forte, quoi.
Ah ouais.
Je me fixais des objectifs chaque année et j'essayais d'atteindre mes objectifs, en fait. Donc, j'essayais d'avoir des objectifs qui, entre guillemets, atteignables. Et si je les dépassais, tant mieux pour moi. Mais ouais. J'ai vraiment pensé devenir professionnelle à 18 ans, je pense. Quand j'ai gagné le championnat de France adulte, c'était à Aix-en-Provence. Là, je bats les meilleures françaises. À cette époque, j'étais 8. C'est là où je suis montée 3.
D'accord.
Et c'est là où j'ai commencé à me dire, je peux devenir professionnelle et c'est ce que je veux faire, quoi.
Et ça veut dire que quand tu dis que tu te fixais des objectifs progressifs, quand tu es montée numéro 3 mondial, est-ce que ton objectif progressif, ça a été de taper la deuxième place?
Pas vraiment. Non, parce que déjà, je me rappellerai toujours, j'étais chez moi. C'est un journaliste qui m'appelle et qui me dit « Bravo Nathalie, t'es 3 mondiales. » Ah bon ? Je dis « Ah bon ?» Parce que moi, je n'étais pas du style à calculer mon classement comme une dingue, quoi, au
D'accord.
point près.
Ouais.
Voilà. Pour moi, mon objectif, c'était de gagner des tournois et je me disais que si je gagnais des tournois, de toute façon, je vais monter.
Ouais. Okay.
Donc, même quand… Je ne me rappelle plus d'où je revenais quand on m'a annoncé que j'étais 3 mondiales. Je pense que c'est quand j'avais gagné Paris, je pense.
Ok.
Et là, on me dit, bon, ben, Nat, t'es 3 mondiales, machin, c'est fabuleux. Et moi, j'étais là, j'ai dit, ah bon, je suis 3 mondiales. Mais où vous avez vu ça, quoi? Comme ça. Et ils me disent, ben, le classement vient de sortir, voilà. Ah bon, ben, écoutez, ben, est-ce que t'es contente? Ben, évidemment que je suis contente, mais voilà, c'est pas non plus. Voilà, c'est bien. Devant moi, je crois que j'avais Ingis et. Non, si j'avais pas Ingis et Serena.
Ok.
Donc voilà, non, j'ai pas pensé la numéro 2, ni même pas la numéro 1, à dire vrai.
Et à l'époque, le classement, on le consultait. Ah bah non, mais je dis des bêtises, enfin, j'ai l'impression qu'on est toujours dans les années 70.
Merci. <Pardon. rire> C'était en 2000, hein. C'était en 2000 quand même.
Ah, j'ai bugué complet, pardon Nathalie.
en 2000.
On va reprendre ton premier point WTA, du coup, est-ce que tu te souviens où c'était et ce que tu as ressenti?
Mon premier point WTA, je l'ai eu à San Antonio, dans un 10 000 dollars à l'époque.
Ok.
Je m'étais qualifiée et j'avais passé un tour dans le tableau. Donc, à partir du moment où on se qualifiait, on passait un tour, on avait un point.
Ouais.
Ce qui était dur, hein.
Ah ouais.
Parce que dans les qualifs, on marquait 0 point et on pouvait avoir jusqu'à 4 tours de qualif.
Ah ouais, putain, la bataille, quoi.
Ah oui, c'était monstrueux. Et ça coûtait cher les investissements quand on partait jouer les tournois. Parce qu'on pouvait revenir avec 0 points, enfin, on pouvait revenir avec rien, quoi.
Et du coup, ce premier point WTA, tu te souviens de la sensation que ça t'a procuré?
Bah, j'étais contente déjà de faire ces résultats parce que, enfin, moi, en tout cas, je me mettais une responsabilité.
Ouais.
Et puis, bah, après, ouais, j'étais contente parce que j'atteignais mon objectif, c'était de rentrer avec des points, quoi.
Ouais.
Et il nous fallait, à l'époque, c'était pas 3 tournois pour rentrer dans le classement, il nous en fallait 6.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on marquait des points, mais on rentrait dans le classement que si on avait 6 tournois. Donc, ça pouvait durer un bon bout de temps, quoi, dans l'année quand même.
Et tout à l'heure, tu parlais de réinvestir ton argent gagné. Tu t'es toujours autofinancé ou tes parents t'ont aidé quand même?
Non, au début, c'est mes parents qui m'ont aidé. Au début, j'avais rien. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à gagner de l'argent, je mettais tout l'argent que je gagnais, c'était pour le tennis, quoi. Et j'ai soulagé mon père, c'est sûr. Et j'ai eu la chance de réussir. Donc après, bon, c'est une autre histoire.
Ouais. À quelle vitesse s'est fait cette traversée du circuit secondaire qui peut être assez compliqué au niveau des...
Je dirais un an et demi, peut-être deux ans.
Ça a été assez rapide quand même.
Oui, la progression a été bonne. Chaque année, il y avait de la progression quand même.
Tu te souviens de ta pire galère vécue sur le circuit secondaire en termes de conditions de jeu, de voyage, de péripéties X ou Y?
Ah bah déjà, moi, mon premier voyage, j'avais pas retrouvé ma valise. Donc déjà, j'étais dans la galère. Hein.
Donc, tu avais emprunté des raquettes, t'as fait comment?
Alors, les raquettes, je les avais. Okay. Mais j'avais plus de shorts, j'avais plus de t-shirts, j'avais plus de survêt, j'avais plus de chaussettes, j'avais rien. En fait, ma valise n'est jamais arrivée. Donc, et à l'époque, on nous donnait pratiquement rien. Donc, bah, je m'étais racheté quelques chaussettes, culottes, trucs pour jouer, quoi. Et j'avais acheté pratiquement que des trucs de tennis. J'avais vécu pendant un mois en survêt, quoi.
Ah oui, classe. Et le pire tournoi, la pire tournée en termes de conditions, c'était dans quel coin du monde ?
Écoute, à l'époque, j'allais pas au bout du monde, hein. On restait en Europe quand même, donc l'Italie. Je pense que l'Italie avec ma mère, c'était pas mal. On avait fait un voyage d'enfer en train. On était allé vers Naples de Toulon, parce que j'habitais Toulon à l'époque. Donc ma mère était venue avec moi. On avait pris le train de nuit pour aller à Naples. Ça, je me rappelle, c'était long. Et puis j'avais joué le tournoi et ma mère, qui au début connaissait pas grand-chose du tennis, quand je sortais du cours, elle savait même pas si j'avais gagné ou si j'avais perdu. Donc elle voyait à ma tête quand même si que j'avais gagné ou perdu, quoi. Voilà. Mais là, après le premier match, je me rappelle, elle me dit alors, ça fait quoi là ? Je dis j'ai gagné, maman, on continue, quoi.
Pourquoi, tu vois bien que j'ai gagné le dernier fois.
On rentre pas à la maison, quoi. Et voilà. Donc là, ça avait été long, hein, ce voyage, mais merci maman de m'avoir accompagné quand même, quoi.
Et du coup, tu t'alternais entre ton coach, ta maman, pour avoir différents
soutiens, pas forcément tout le temps. Ouais, à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais pas les moyens de me payer le coach en permanence, quoi.
Ouais.
Donc, je payais déjà le centre d'entraînement, puis après, je me débrouillais pour aller en tournoi.
Même si j'ai compris que ta progression a été régulière et progressive, tu as senti qu'il y a eu un petit déclic pour t'installer dans les 100 meilleurs, taper le. Est-ce que déjà à l'époque, le top 100, c'était le même objectif qu'aujourd'hui?
Oui, oui.
Et t'as senti une sorte de déclic pour t'y installer ou comment tu as réussi à t'immiscer?
En fait, c'était tournoi après tournoi. Voilà, je me fixais des objectifs, tournoi après tournoi, et puis je faisais tout pour y arriver. Alors j'avais des périodes difficiles, hein, c'est sûr. On peut pas tout le temps être au top, mais je travaillais tout le temps pour. Moi, j'avais la particularité, pas tout le monde le faisait, mais moi je le faisais, c'est que je me prenais souvent 1 à 2 mois par an. Où vraiment je me recentrais, je faisais une préparation foncière et ça a toujours bien fonctionné pour moi. C'est-à-dire que chaque année, je progressais grâce à ça, je pense.
Tu la faisais dans le Pays Basque ?
Oui.
C'est bon, ça.
Ouais, je courais dans la forêt de Chiberta.
Ah, excellent ! Excellent ! T'as vu le...
Et j'allais dans une salle de gym, là, à côté de Parme, là, Mus Club, qui s'appelle plus Mus Club maintenant, mais voilà.
T'étais là cet été quand elle a brûlé partiellement ?
Oui. Ouais. Ouais, j'étais à Biarritz et je voyais rien et j'ai tout de suite vu sur les réseaux sociaux que ça brûlait. Alors j'y croyais pas au début.
Ouais.
Et moi j'habite quand même au Saint-Canton donc je suis pas très loin. Ouais, impressionnant, ouais. Impressionnant.
Tu disais tout à l'heure que tu avais animé un workshop sur le revers à une main à Moscou. Est-ce que c'était ton coup le plus naturel à l'époque ?
Non.
C'était lequel ?
Enfin, c'était disons lequel ? Que c'est un coup naturel, mais je l'ai appris parce que en fait au départ je faisais le revers chopé.
Ok.
Beaucoup plus.
À la Steffi Graf.
Ouais, un peu. Ouais, peut-être. Elle le faisait mieux que moi à l'époque. Hein. Après, j'ai appris le revers à une main parce qu'il fallait que je progresse. Il fallait quand même que j'ai un coup qui fasse plus mal qu'un slice, quoi. Donc, ouais. J'ai travaillé mon revers à une main. Mais j'ai tout le temps fait le revers à une main. Le monsieur Do qui m'a appris à jouer, toute petite, j'ai pris le revers à une main. J'ai jamais pris le revers à deux mains.
Ça paraît incroyable parce qu'aujourd'hui, ça devient très rare.
Mais elle regarde mes épaules.
Ouais.
À 8 ans, j'avais les mêmes. Hein.
Non, et du coup, ton coup le plus naturel, c'est lequel ?
Non, c'est le revers. Ça a été le revers après. Après, ouais. Le revers, ouais, le revers quand même. Le coup droit, non, ça n'a pas été vraiment un coup naturel, mais le service non plus. Mais ouais, le revers, c'était assez naturel.
Et le coup que tu as le plus fait évoluer ?
Le service.
Et c'est quoi, à raison de milliers de paniers de balles?
De balles. Ouais. Ouais.
À quelle fréquence, ouais. Tu te souviens, tous les
jours? Tu vois les caddies qu'on a dans les supermarchés?
Remplis de balles.
Elle va servir.
Tous les jours?
Non, pas tous les jours quand même, parce que sinon j'aurais plus d'épaule, mais.
Ouais.
Mais beaucoup, ouais. J'avais à peu près 3 à 4 fois par semaine, j'avais des séances de service, soit pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure.
D'accord. Et t'avais un...
Plus après les entraînements. Je veux dire, c'est quelque chose que je faisais en dehors des entraînements, toute seule. Comme quelqu'un qui va taper des ballons pour les mettre entre les poteaux au rugby, quoi, toute seule.
C'était toi, c'était ta détermination personnelle. C'était pas forcément ton coach qui te poussait à le faire, quoi.
Ben, il nous donnait un programme. Et il y avait certaines choses qu'on devait faire toute seule. À nous de le faire ou de pas le faire. Voilà ce qu'il nous disait. Il dit, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne un conseil. Si vous voulez progresser, il faut faire comme ça. Voilà. Donc, on le faisait. Enfin, ouais.
Et la routine sur le service, parce que j'imagine que tu n'arrives pas et tu envoies des missiles directs sur les cibles, tu trouvais les zones lentement, puis tu accélérais, tu avais un process particulier pour progresser au service ?
Bah, j'avais le lancer de balle qui me permettait de bien cibler voilà la cible et puis voilà quoi. Donc je travaillais beaucoup mon lancer de balle. Moi j'ai beaucoup travaillé mon lancer de balle. Ouais.
Okay.
Et les filles en fait ça m'a beaucoup servi parce qu'après les filles la réflexion que j'avais des meilleures joueuses et tout qui me disaient mais Nat, putain quand tu sers on voit jamais où tu sers. T'as tout le temps le même lancer. Ah, bah, je lui ai dit écoutez je vais pas vous donner mon secret mais.
T'avais une moyenne d'ace par match?
Je saurais pas te dire. Ouais, disons, allez, peut-être 8.
Ah ouais, quand même. Pas mal.
Ouais.
Ton service le plus rapide, tu
à la fin de ma carrière, je parle à la fin de ma carrière, hein, je parle pas au début. Hein, parce qu'au début, mon service était pas bon, mais en fin de carrière, était bon.
Début de carrière, tu faisais quoi, une première, deuxième, quasiment
ma plus belle vitesse était 179, je crois, quelque chose comme ça.
Et la volée, pour la faire aussi bien progresser, c'était quoi ton...
Là, j'ai beaucoup travaillé ma volée et je dirais que le double m'a énormément aidé parce que toute ma carrière, j'ai joué en double.
T'as eu beaucoup de partenaires en double ou t'as été assez fidèle à...
Non, j'en ai eu, mais j'en ai pas eu énormément. J'ai eu plus de françaises que d'étrangères.
Ouais.
J'ai joué avec De Monjou, j'ai joué avec Callard, j'ai joué avec Wiesner, qui est une étrangère. J'ai joué avec Fusée longtemps et j'ai joué en dernier, j'ai joué avec Kimberly Poe, une étrangère.
Ok. Celle qui complétait le mieux ton jeu, c'était Alexandra Fusée?
C'est avec celle avec qui j'ai joué le plus longtemps et avec qui on s'entendait très bien.
D'accord. All right. Alors, pour revenir peut-être à tes meilleurs souvenirs en carrière, est-ce que tu peux nous en isoler deux ou trois qui t'ont marqué en termes de frissons?
Bon, alors, il y a Wimbledon, évidemment. Je ne vais pas l'enlever, même si j'ai perdu, quand même.
Ouais.
C'est une finale de Grand Chelem.
Bien sûr.
Paris, quand je bats Serena.
Ouais.
Parce que pour moi, c'était l'abattre, c'était un peu une revanche sur moi-même, quoi. Parce que quelque part, physiquement, elle est hors norme. Et moi, j'étais plutôt complètement différente. Donc, de battre quelqu'un qui, physiquement, était largement au-dessus de moi, voilà.
Ouais.
C'était quelque chose pour moi. Et puis, le troisième, qu'est-ce que je pourrais dire? Ma victoire à Moscou, peut-être aussi.
Ouais.
J'ai gagné Moscou, le tournoi de Moscou, parce qu'en fait, j'avais que des très mauvais souvenirs à Moscou. Et je voulais pas y aller faire ce tournoi. Et mon coach m'a dit, de toute façon, tu devrais y aller. Je lui dis, non, de toute façon, à chaque fois que je vais là-bas, je me prends une tôle. J'ai plus envie d'y aller. Pays qui me dit rien du tout. Je lui dis, il me dit, écoute, de toute façon, tu peux pas faire pire que ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc, au moins, tu peux gagner au moins un match.
Ouais.
Je lui dis, tiens, c'est pas bête. Et puis finalement, j'y vais, je gagne le tournoi, tu vois, comme quoi.
Excellent. Alors, pour reprendre ta finale à Wim, elle a lieu en 98, au moment où l'équipe de France gagne la Coupe du Monde de football. Donc, c'est un peu un événement qui est hélas passé à la trappe, mais sportivement, ça reste une finale en grand chelem. C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous la faire revivre dans les grandes lignes? La quinzaine, ce que tu as ressenti, ton niveau de jeu, les
souvenirs. En fait, la quinzaine, elle s'est passée…
La hauteur de l'air.
La quinzaine, elle s'est passée… Bon, j'étais en forme puisque je venais de bien jouer les tournois d'avant, donc j'étais en forme. Alors, je ne saurais pas te dire exactement… je sais que je bats Iva Maioli qui venait de gagner à Roland,
ouais.
Je crois, ou bien figurer à Roland ou gagner Roland. Et je lui mets 6-0, 6-0. Et là, me dis « Waouh, je suis en forme ». Waouh, là, la confiance, elle était décuplée. Derrière, je crois que derrière, je joue Julie Allard. Je suis pas sûre, mais je crois.
Ouais.
Que je gagne aussi en 3-7, la plus difficile. Après, je joue une Anglaise en huitième de finale, évidemment, la seule Anglaise qui restait dans le tableau. Donc, tout le monde pensait que c'était le match à voir, et, etc. Et là, je la gagne facile aussi. Et en quart, je joue Lindsay Davenport, qui était dans les trois meilleurs du monde à l'époque.
OK.
Et je lui mets 1-2.
Oh la vache.
Et là, je sors du court. Et là, j'avais joué, mais vraiment un tennis, mais j'étais sur un nuage. Hein. C'est, là, le nuage, il était monstrueux, quoi. Tout ce que je faisais, je le réussissais. J'aurais pu jouer la balle entre les jambes, je faisais un coup gagnant, quoi. C'était monstrueux. Je sors du court. Et là, je regarde mon entraîneur, je lui dis, mais c'est pas possible de jouer comme ça, quoi.
Je joue l'acier. Oh,
j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver sur le terrain, quoi. Un truc de dingue. Lindsay, elle faisait la gueule parce qu'évidemment, je vais quand même coller 1-2, donc franchement pas contente. et d'ailleurs, après, à la conférence de presse, elle a dit, écoutez, j'ai pas l'impression d'avoir mal joué, mais j'ai pris une tôle. Voilà, elle a dit, c'est Nathalie a fait un super match. Vraiment, elle avait été très correcte vis-à-vis du match et je dirais lucide sur ce qui s'était passé.
Ouais.
Et puis, en demi, je joue Zvereva, qui était une spécialiste quand même de gazon et qui avait déjà fait des finales en Grand Chelem. Je gagne en 3-7. Je m'en sors un peu miraculeusement au second, je gagne le tie-break et puis après je gagne 6-2, je crois.
6-3.
Donc là, je suis sur un nuage, je me retrouve en finale de Wimbledon sans y avoir pensé une seconde. Quoi.
Incroyable. Et donc tu joues.
Ouais, et je joue Novotna qui était une joueuse, comment dire, de gazon, quoi. Voilà. Et je pense que je perds cette finale parce que même moi, je pensais pas en arriver là, quoi.
Et t'étais inhibée par l'enjeu, tu te souviens d'avoir stressé
particulièrement ? Non, même pas. J'étais contente d'être là.
Ok.
Et malheureusement, j'ai pas franchi la marche nécessaire pour le gagner parce que j'aurais pu le gagner puisque Novotna c'était une fille que je battais dans d'autres tournois, dans d'autres circonstances. Sauf qu'elle avait plus d'expérience de moi sur les grands chelems que moi je n'avais pas, quoi.
Ça veut dire que t'as un accès maintenant à vie au All England Club, non ? C'est pas ça ?
Non, il faut gagner.
Ah, il faut gagner le tournoi. Ah, les salauds. Ouais. Et la soirée du tournoi, tu t'en souviens ?
J'y suis pas allée.
Bah pourquoi non ?
Bah il y avait la finale de, il y avait la... en fait il y avait la Coupe du Monde de foot et je voulais rentrer en France rapidement pour suivre tout ça en France.
D'accord.
Et... Donc là, en fait la soirée, si tu veux, ils invitent. Bon, j'aurais pu y aller, hein, mais ils invitent surtout les vainqueurs.
Ouais.
Et moi, je t'avoue que tous les enfin c'est pas bien ce que je vais dire, hein, parce que c'est pas top ce que je vais dire, mais. Tous les tralala, des robes longues, des machins, tout ça, moi, c'est pas pour moi, ça.
C'est pas ton truc, ouais. Et qui avait gagné chez les hommes à ce moment, cette année-là, tu te souviens ?
Sampras.
Ah oui, Pistole. Mmh. Et comment tu l'as vécu mentalement, le fait que ton exploit passe un peu à la trappe médiatiquement ? Pas plus que ça ?
Comme ça ? Non, ouais. Pas plus que ça, je me suis pas prise la tête avec ça. Moi, j'étais même contente d'être en France et de rentrer pour voir la finale de la Coupe du Monde et voir les Français gagner. Donc voilà, j'ai pas pensé à moi, quoi.
Ah bah, merveilleux. Et contre Serena, du coup, à l'Open Gaz de France, en indoor, tu sors une grosse partie, tu envoies du chip and charge, tu lui mets la pression, tu te souviens.
Je la fais pleurer même.
Pendant le match ?
Ouais.
Ah oui, pas mal.
Pas de solution en fait. Et là, j'étais dans un état un peu, je dirais, de force mentale très forte. Je disais, mais pleure, t'inquiète pas, je vais t'enfoncer, je vais pas te consoler. J'étais à fond. En fait, je pense que j'ai eu le fait d'avoir raté ma finale, enfin pas raté, mais d'avoir perdu ma finale à Wimbledon, je voulais pas en perdre une deuxième, quoi. Je voulais pas qu'on me catalogue comme quelqu'un d'une loser en permanence, quoi. Donc du coup, j'étais à fond et j'ai gagné, quoi. J'ai pas lâché.
Et pour terminer, Moscou, donc c'est un grade 1, c'est le tournoi le plus haut gradé que t'aies gagné. Tu te souviens de quelques images en finale ou pendant la semaine qui t'ont marqué
D'abord, j'étais toute seule.
Ok. Donc,
toute seule à Moscou, pas top.
Pas très drôle.
Voilà, j'ai pris tous mes matchs à fond la caisse, là aussi. Je me suis dit, finalement, mon coach, il a raison, je peux pas perdre tout le temps à Moscou. Je me suis mis ça dans la tête. Et puis voilà, j'ai gagné le premier tour, deuxième tour. Je me retrouve en demi où je gagne facile aussi, en jouant service volé. La surface me convenait bien. J'étais très relâchée, en fait, je me suis pas pris la tête du tout. Et puis en finale, j'ai joué une joueuse qui jouait pas mal, hein, Barbara Chet, je me rappelle. Mais voilà, j'étais au-dessus. Par contre, ce qui m'a le plus marqué, c'est après, tu vois, je vais chercher mon prize money, ils m'ont payé cash, quoi. Là, je suis montée dans l'avion, j'étais comme ça quand même.
Avec une valise de billets.
J'avais une belle enveloppe, on va dire.
Ils
on te paye cash. Ils m'ont dit on te paye cash. Je me suis dit, ouh, ça vient d'où tout ça?
Ah, c'est énorme. Et t'étais du genre à faire hôtel, court hôtel, ou tu profitais un peu de la beauté des villes dans lesquelles tu passais?
Alors, quand j'aimais bien la ville, je profitais. Et quand j'aimais pas, je faisais hôtel, cours, voilà.
Et du coup, les
Moscou, villes... par exemple, Moscou, j'ai pas visité.
Il doit y avoir 2-3 églises orthodoxes sympas à voir.
Oui, mais je les ai vues plus tard, en fait. J'y suis retournée après ma carrière parce qu'ils m'ont invité pour les 10 ans du tournoi. Ils invitaient les 10 vainqueurs. Donc, j'y suis retournée après.
D'accord.
Et là, j'ai visité.
Et les villes dans lesquelles tu préférais jouer, du coup, c'était lesquelles ?
San Diego.
Californie.
New York, j'aime bien. Bon, Paris, évidemment. Pour moi, c'était San Diego parce que ça ressemblait au Pays Basque un peu, je pense.
Ok. Tu surfes un peu ?
Non, j'ai essayé, mais j'ai vite oublié.
Dommage. Tu fais finale aussi.
J'ai pris la vague, j'ai pris la planche dans la tête, ça m'a suffi.
Ah, mais ça arrive à tout le monde, Nathalie, je te rassure. Même au meilleur.
Ouais, je sais, mais moi, je commençais très tard. Hein.
Ouais. Tu fais finale aussi à l'US en double et tu gagnes Miami avec Arantxa Sanchez. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers de ces deux événements?
Bah, l'US Open, c'était mon dernier tournoi, en fait. Enfin, dernier non, parce que je n'avais pas fini l'année, mais ma dernière chance de gagner un grand chelem, on va dire. Et j'en ai pleuré, mais grave sur le terrain après avoir perdu, ce qui m'arrive pas souvent, même jamais, je crois. Voilà, donc ouais, mais j'étais déçue parce qu'on a eu balle de match, on n'était pas loin et j'aurais pu gagner ce grand chelem. Ouais.
Et le titre à Miami avec Arantxa Sanchez, ta bête noire en simple.
Ouais, alors là c'était top avec Arantxa, on gagne ce tournoi, j'étais hyper contente. Là j'ai juste une petite anecdote, pendant un match elle fracasse une raquette, je lui dis mais waouh, je lui dis calme-toi, ah non là je peux pas, là il faut que je me lâche et tout, elle m'avait fracassé une Yonex, je me rappelle. Oh, et puis bon, finalement on gagne le match quoi.
Ça a l'air de t'outrer, de fracasser une raquette. T'as jamais eu d'énormes pétages de plomb sur un court pendant ta carrière ?
Si, mais j'en ai cassé moi des raquettes. Hein.
Et le plus gros que t'aies eu, c'était où ?
C'était en double avec fusée en fait. Je tape sur mon pied d'énervement, paf ! Et là, tiens, je vois la raquette, mais fracassée quoi. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Je pensais pas là. Que je tape par terre encore, je peux comprendre, tu vois. Mais là, j'avais fracassé la raquette.
Et tu t'es pas fracassé
le pied ? Oh ! Non, le pied ça allait. Enfin, j'ai eu un peu mal, mais ça allait.
Tu as joué plusieurs fois le Masters aussi de fin d'année, en simple et en double. C'est peut-être le tournoi où les joueurs et les joueuses sont les mieux accueillis. Il se jouait où, toi, à ton époque ?
New York.
À New York. Est-ce que tu peux nous faire vivre un peu les conditions qui peuvent être dingues ? Je sais pas, les joueurs ont des loges presque, c'est... des chauffeurs, des suites d'hôtels de dingue. Ça ressemblait à quoi ?
On a des suites, enfin l'hôtel c'est des suites, les voitures c'est des limousines qui viennent nous chercher. Après des loges, on n'a pas vraiment des loges, mais on est dans les vestiaires avec nos noms, on arrive comme un peu comme aux États-Unis, on met le nom tu vois des joueurs et tout ça là de hockey. En fait, on était dans des vestiaires de hockey. Et après on a eu des loges aussi, ouais. Le dernier master que j'ai joué c'était à Munich, on avait des loges. Donc voilà quoi, c'était top, une organisation parfaite, New York au mois de novembre. Un des objectifs de l'année, c'est quand même de jouer le master. Et puis après, on se dit que aussi la saison, elle est finie et que ça va faire du bien de couper un peu, quoi.
Tu l'as joué combien de fois en simple ou en double, tu te souviens ou pas?
Ouf, je crois que le master, je l'ai joué en simple, j'ai dû le jouer 7 fois, 7 ou 8 fois. Ouais. Et en double, j'ai dû le jouer 4-5 fois.
Tes collègues de travail à l'époque, c'est Agassi, Sampras, chez les femmes, Ingi, Céleste. C'était quoi l'ambiance l'ambiance dans les vestiaires entre femmes? Et est-ce que tu parlais un peu aux légendes?
La seule légende avec qui je parlais et je m'entraînais souvent, c'était Graf.
Ok.
Et Ingis aussi. Voilà, c'est les deux seules, je dirais top, ouais, avec qui j'ai pu m'entraîner souvent.
Parce que tu avais un bon fit humain avec elle, c'est ça ?
Ouais. Ouais.
Et les autres ?
Par exemple, Graf, une fois, j'arrivais d'un tournoi côte Est des États-Unis. J'arrivais à Los Angeles. Donc, j'étais assez fracassée. Parce que j'avais bien joué au tournoi d'avant, donc j'étais assez fracassée. Et puis, j'arrive au club pour voir un peu les conditions, réserver un cours pour le lendemain, tard dans la journée, tu vois, pour me reposer le matin. Graf arrive, oh Nat, salut et tout, on parle deux minutes, elle me dit, ah écoute, demain tu veux pas t'appeler avec moi, j'ai le cours à 7 heures. Je lui dis, écoute, 7 heures. Et puis mon entraîneur, je vais le voir, je lui dis, écoute, Graf, elle m'a demandé de jouer à 7 heures. Mais, il me dit, non, Nat, ça se refuse pas, ça. T'as pas le droit de refuser de jouer avec Graf. Alors, hop, je repars en courant, je vais voir Stéphie, je lui fais, bon, ben ok, demain 7 heures.
Excellent.
Et là, j'ai dit à mon coach, bon, tu sais quoi, là, il est 6 heures, je vais me coucher, moi, parce que si demain matin, je me lève à 6 heures pour taper avec Graf, je vais me coucher, là. Ciao, à demain. Et là, le lendemain, à 7 heures, j'étais sur cours, on a joué jusqu'à 8h30. Ouais. Et j'étais, mais fracassée, quoi. Et là, j'ai dit à mon coach, tu sais quoi, je repars me coucher, là. C'est bon, j'ai donné une heure et demie avec Graf.
Elle mettait une intensité de dingue.
Ouais, tout juste si on pouvait boire, quoi.
Et Martina?
Ah ouais, elle était dingue.
Et Martina, t'as une anecdote avec elle?
Martina, j'ai joué en double avec elle, j'ai gagné un tournoi de double avec elle. On était à Montréal, c'était l'époque en plus où j'étais un peu la tête dans le sac, dans le sens où on m'avait pas sélectionné pour les Jeux Olympiques de Sydney, donc j'étais assez furax. Et elle avait accepté de jouer avec moi à Montréal, on avait joué ensemble et on avait gagné le tournoi d'ailleurs. On faisait des super entraînements quoi cette semaine-là et elle m'avait dit faut qu'on gagne le double, faut que tu leur montres de quoi t'es capable. Enfin, elle était vachement derrière moi quoi, elle était hyper sympa et Voilà. Mon livre avait fait des dégâts, je pense.
Et les autres joueuses, des peaux de vache ou juste pas forcément d'atomes crochus?
Pas d'atomes crochus. Et puis, c'était, tu sais, la règle un peu du circuit, c'était on parle à personne pour montrer qu'on est au-dessus, quoi.
L'ambiance a globalement vachement évolué sur le circuit, non? C'est plus friendly.
Je pense, oui, je pense que les filles sont un peu plus copines maintenant. Ouais. Je pense qu'elles savent faire un peu plus la part des choses.
Et aujourd'hui, vous envoyez des textos encore avec Stéphie et Martina ou...
Non, non. Par contre, j'ai revu Stéphie à Roland-Garros il y a peut-être 3 ans.
Ouais.
Et voilà, toujours sympa. Elle est venue vers moi, on a parlé de nos enfants. Tu vois, on parle pas du tout tennis, on a parlé de nos enfants.
Ouais. Et les hommes, quelques anecdotes, quelques contacts avec les légendes de l'époque?
Moi, je dirais Agassi Gentleman. Sampras aussi, il était assez sympa, toujours bonjour. Voilà, mais sans plus, quoi.
Ouais, pas trop de contact avec les mecs, quoi.
Non. Non.
Okay. Les JO, j'ai oublié de regarder ce que tu avais fait, mais du coup, tu as participé à quelle Olympiade?
J'ai fait 3 JO et je devais en faire 4.
Ok. Les 3 auxquels tu as participé? C'est les 4.
J'ai fait Séoul, Barcelone et Atlanta. Bah... Je devais faire Sydney, j'étais dans les clous pour être sélectionnée, mais la Fédé a décidé autre chose.
Et la cérémonie d'ouverture qui t'a le plus marqué, c'est laquelle?
Séoul, la première.
Pourquoi?
C'est la première, quoi. C'est,
ouais.
C'est un truc grandiose. Enfin, c'est, quand tu vis ça, tu te sens vraiment athlète de haut niveau, quoi. Puis être mélangé avec les autres sports, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir.
T'as réussi à bien jouer au JO? J'ai pas regardé du coup.
On était à une porte de la médaille en double avec De Mongeau à Barcelone.
Pas mal. Le coaching sous l'ère Yannick Noah, enfin en gagnant la Fed Cup en 97, à quoi ressemble le coaching de Yannick Noah si tu devais le résumer?
Alors si je dois le résumer, c'est un meneur. Tout le monde le respectait beaucoup. Donc du coup, toutes les filles qui étaient dans l'équipe se sont mises à être beaucoup plus sérieuses et à respecter tout ce qu'il disait. Tout le monde acceptait à se lever tôt, aller faire un footing le matin, faire sa séance de yoga avec lui. Les entraînements, les heures étaient bien précises. Et personne bronchait, quoi.
L'ambiance dans l'équipe à ce moment-là avec Sandrine Testu, Fusée.
Elle était bonne.
Ouais. Collègues de travail, sans plus, quoi.
En tout cas en 97, je vais pas parler pour les autres où elles ont gagné, mais en 97, je dirais que on a réussi à être des individualistes, mais ensemble. Voilà, parce qu'on est quand même un sport individuel et on s'est rendu compte qu'on avait une chance de la gagner. Après le premier tour, on bat le Japon. Il y a beaucoup de têtes de série qui avaient perdu au premier tour, comme l'Espagne, des grosses équipes.
Ouais.
Et donc, on s'est retrouvés à se dire, mais on a nos chances, quoi. Il faut pas rater cette occasion-là, quoi. Et même Marie Pierce, qui était un peu, je dirais, un peu en dehors de ça, a pris conscience que, on pouvait gagner, quoi. Donc, elle a aidé l'équipe aussi à être plus performante.
Tu as ce match épique, donc en 97, 17-15 au troisième. Tu dois terminer, mais sur les rotules complets. Enfin, il y avait une ambiance de dingue. Est-ce que tu as quelques images qui te reviennent?
L'image qui me revient, c'est à la fin du match, je vais voir Yannick et puis je lui dis je vais vite dans les vestiaires, je vais me doucher, me changer, je suis prête pour jouer le double.
Ah oui, d'accord.
Et là, il me regarde, il me dit, mais Nat, t'as pété un plomb ou quoi? Je lui dis ça va. Je lui dis ça va. Il me dit non, on a gagné la rencontre, on venait donc de gagner la rencontre avec le point que j'avais ramené, ça faisait 3-1, donc le double n'était pas un point hyper important, quoi, on va dire.
Attends, tu voulais y aller quoi qu'il arrive, quoi.
Et moi j'étais, je pense que dans ma tête, j'y étais plus, quoi. Il y avait un espèce de truc qui avait disjoncté ou je sais pas. Et en fait, il m'a dit non, t'inquiète pas. Et en fait, la fille qui a joué, c'était Anne Gaëlle qui a joué avec Fusée. Ouais. Et Anne Gaëlle n'avait pas amené ses affaires de double au départ.
Ok.
Parce qu'elle pensait jamais jouer en double, quoi.
Ouais.
Donc du coup, parce que l'équipe type c'était Alex et moi, et du coup pendant le match elle est partie à l'hôtel chercher ses affaires. Quand on était à je sais pas combien au troisième, Yannick il a dit Angèle, tu vas sûrement jouer le double parce que Nat elle va être rôtie, quoi. Et du coup elle dit j'ai pas mes affaires, donc elle est vite, heureusement l'hôtel était à 5 minutes à pied, et elle est revenue, elle avait ses affaires, quoi, et elle a joué le double, voilà. Et moi c'est après en fait ma douche que là je me suis dit waouh, j'avais mal partout, et je me suis dit mais heureusement que je joue pas le double, quoi. Le lendemain, dans l'avion, je me rappelle, je ne pouvais plus bouger.
Tu te souviens en quelle année les joueuses ont arrêté de jouer avec deux jeux d'écart au troisième?
Non, je ne me rappelle pas.
Alors, tu me disais l'autre fois que d'assister aux mondanités, c'était pas ton truc, les soirées à robe et compagnie. Mais pourquoi tu me disais que c'était pas bien de dire ça finalement?
Bah, parce que ça fait partie de notre job normalement. C'est parti, tu vois, par exemple, aller à la soirée de Wimbledon, c'est sûr que, bon, moi, je n'avais pas gagné. Un jour gagné, j'y serais allé hein, quand même. Hein. J'aurais
ah, d'accord.
Fait, acte de non-présence. Hein. Mais okay. Là, il se trouve que, bah, bon, j'avais perdu. Il fallait encore que je reste une journée de plus à en Angleterre, à Wimbledon. Et je t'avoue que ça faisait quoi, 2 mois et demi que je n'étais pas rentrée à la maison. Donc voilà, ça faisait beaucoup. En plus, il y avait cette Coupe du Monde de foot. J'avais envie d'être en France. Ça se déroulait en France. J'ai dit, allez, hop, je rentre.
Et t'as senti que parfois, ne pas aller dans les rendez-vous comme ça, ça te fermait des portes pendant ta carrière? Par exemple, à un jeune ou une jeune, tu lui conseillerais quoi, du coup, si ce n'est pas trop son truc?
Je pense que ça m'a fermé des portes à un moment donné, déjà de vivre dans le sud et pas à Paris.
Okay.
C'est-à-dire que moi, je vivais... tranquille, hein, anglais de Biarritz, voilà, je vivais ma petite vie tranquille. Et c'est vrai que quand on est connu, reconnu, c'est bien de se montrer un peu, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est bien de temps en temps de faire ce qu'il faut. Après, il faut le faire au bon moment, hein. Enfin, évidemment, il ne faut pas le faire dans des périodes où on est en pleine compétition, plutôt dans des périodes où justement on est en préparation, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, il faut savoir le faire au bon moment. Et puis, il y a un temps pour tout. Moi, je me disais, bon, bah, j'irai après dans ces soirées. Puis finalement, après, bah, j'ai arrêté ma carrière et. Et je suis restée aussi tranquille chez moi, Anglette.
Ouais. Pendant ta carrière, tu as gagné 6 650 000 et 93 dollars de prize. Ouais. Le prize ouais. a vachement évolué, mais à ton époque, c'était quand même une sacrée somme, quoi. Ouais. Quel regard tu portes là-dessus?
Que j'ai bien gagné ma vie. Okay. que j'ai eu la chance d'exercer un métier où j'ai réussi et en plus, j'ai bien gagné ma vie. Donc franchement, voilà le top quoi. Parce que je sais pas si beaucoup de gens se font énormément plaisir dans leur métier, mais moi j'ai eu la chance voilà de réussir et en plus de bien gagner ma vie pendant une certaine période de ma vie.
Ouais.
Ce qui m'a bien aidé après c'est sûr par rapport à même maintenant. Hein, je veux dire la maison que j'ai, je l'ai pas voilà c'est pas un hasard non plus. Donc voilà je regrette rien. Je sais que les joueuses aujourd'hui gagnent plus d'argent et tant mieux pour elles. Je veux dire ça veut dire que même les sportives féminines gagnent bien leur vie à un certain niveau, donc ça c'est plutôt bien.
Ouais.
Pas assez à mon goût encore, surtout sur une certaine catégorie. Je pense que les filles qui gagnent très très bien leur vie sont évidemment de 1 à 50 aujourd'hui, mais après derrière, le jour où elles arrêtent leur carrière, oui elles ont un peu d'argent de côté, mais pas énormément quoi. Donc elles sont obligées de travailler derrière encore. Voilà, donc je pense qu'on devrait un petit peu, peut-être mieux répartir peut-être un petit peu les prize money, ça serait pas mal.
Et une saison te coûtait combien en moyenne, tu te souviens?
Ah ben ça dépendait de la saison, si je jouais bien ou pas, déjà.
Ouais, ouais.
Parce que je payais mon entraîneur, je payais tout. Donc voilà, lui, comme il était payé au pourcentage, si je gagnais beaucoup d'argent, je le payais. Donc évidemment, je ne mettais pas le frein hein, sur certaines victoires par rapport à ça. Non, je rigole. Mais ça dépendait. Les dépenses, ça pouvait aller quand tu payes tout, en fait, l'avion, l'hôtel. Enfin, l'hôtel, non, j'exagère, parce que l'hôtel, en général, quand on était dans le tableau, ils nous les payaient.
Ouais.
En tout cas, je payais la chambre de mon entraîneur. Donc, ça pouvait, en frais, ça pouvait aller jusqu'à 70 000 euros. Plus après, payer l'entraîneur, voilà, suivant ce que tu gagnais, bah, ça pouvait faire, je pouvais dépasser facilement les 100 000, 150 000 dans les dernières années. Là.
Est-ce que tu te souviens de ta toute première dotation de fringues? Est-ce que tu as ressenti en découvrant
chez Lacoste.
En ouvrant les cartons?
Alors, j'ai pas ouvert les cartons, je suis allée directement à la boutique Lacoste qu'il y avait à Paris.
Encore mieux.
Ouais, et là, on me dit, bon, bah, alors voilà, tu as le droit à 2 shorts, 3 t-shirts, 1 survêt. Et allez, 5 paires de chaussettes, quoi.
Okay.
Ah, d'accord. Donc, j'ai pris ça,
ouais.
Que j'avais droit, en fait. Bah, dans l'année, ça ne fait pas beaucoup, quand même, de shorts, tu
bah
vois.
Ouais, bon, après,
voilà.
T'avais quel âge ?
Mais c'était… Moi, j'avais 14 ans. Donc, pour moi, c'était… Oui. Tu vois, je venais de faire mon premier championnat de France et tout. Donc, pour moi, c'était déjà bonus, tout ça.
Ouais.
Et donc, j'étais hyper contente, quoi. Et bon, après, bah, je suis restée Lacoste toute ma carrière, tu vois. Donc, voilà.
Fidèle,
et ils ont été très bien avec moi.
Et c'est via la… Ah ben non, tu m'as dit que tu étais en dehors de la Fédé, donc c'est un représentant de Lacoste qui est venu te voir directement.
Ben, en fait, ça s'est fait, j'ai progressé. Donc, année après année, je progressais. J'avais un agent à l'époque qui avait reconduit mes contrats. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, avec des primes, des fixes, voilà.
Ok. Et Raquel?
J'ai failli passer une année, j'ai failli passer chez Reebok. Ouais. Et puis finalement, je suis restée chez Lacoste parce que je me suis rendu compte que, effectivement, j'aurais signé un très beau contrat avec Reebok, mais j'avais pas de prime, j'avais pas tout ça. Et moi, j'avais besoin, en fait, pas d'un, tu vois, pas d'un, être sûr d'avoir cet argent. J'avais déjà un beau contrat chez Lacoste et j'ai préféré rester chez Lacoste avec les primes, ce qui me poussait à aller plus loin, quoi.
Et t'es pas, aujourd'hui, t'es plus chez Lacoste, du coup, je vois ta doudou Nike.
Ça dépend.
D'accord.
On va pas trop en parler. Ok.
Et raquette, matos de tennis pur, t'étais avec qui?
Alors, quand je jouais, j'étais avec Kinex pendant okay. très très longtemps, c'est-à-dire j'ai tout le temps joué avec ça, et maintenant je suis avec Babo là par contre.
D'accord. Ok.
Voilà. Marque okay. française, le plus possible.
C'est bon ça, très bien. Est-ce que tu aurais une anecdote ou deux avec Guy Forget et Cédric Pioline avec lesquels tu as joué en Open Cup? Tu te souviens un peu de l'ambiance sur cette compète qui reste une exhibition finalement?
Ouais, bah c'était sympa, Guy. Alors, déjà, c'était la première fois que j'allais en Australie quand je suis arrivée là-bas.
Ouais.
Je me suis retrouvée à la Open Cup, à jouer la Open Cup. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je suis arrivée à Perth, oh, un coin super joli, quoi.
Ouais.
Super joli. Donc déjà, waouh, l'hôtel, c'était fabuleux. J'avais une suite, une chambre, une suite, quoi. Un truc de dingue avec une vue dehors. Je me rappelle des baies vitrées. Je me disais, mais comment je vais dormir? Comment je vais mettre les rideaux pour pouvoir avoir le noir dans cette chambre? Tellement qu'elles étaient grandes. Et non, Guy, on avait fait une super compète. On avait bien joué. On avait perdu en demi, je crois. Et je me rappellerai toujours, on joue les États-Unis. Il y avait Gigi Fernandez. Non, pas Gigi Fernandez. Marie-Jo Fernandez. Et je ne sais plus qui était le joueur. Et donc, il y avait un joueur qui servait fort. Et elle qui servait à deux à l'heure. Et je me rappellerai toujours en mixte, Guy qui n'arrivait pas à retourner le service de Marie-Jo Fernandez. Et Guy me dit, putain, mais c'est pas possible, j'arrive pas à retourner ce service, c'est pas possible. C'est pas possible. Je lui dis, écoute Guy, à mon avis, t'es beaucoup trop loin, mets-toi un mètre dans le court, je pense que ça ira beaucoup mieux. Quoi. Ouais. En fait, il retournait le service de Marie-Jo comme s'il retournait un service de garçon. Quoi.
Ouais.
Et il avait oublié que bah elle servait pas très très fort et qu'il allait mieux être dans le court quoi. Et à un moment donné, je lui ai dit allez rentre dans le court. Et là, il est rentré dans le court et effectivement, ça allait beaucoup mieux. Il me dit mais putain, mais pourquoi j'ai pas pensé? Bah, je lui dis je sais pas, t'es tellement habitué à retourner des services forts que voilà, t'as pas voilà.
En double, vous deviez être solide tous les deux.
Ah c'était pas mal, mais on avait gagné, je crois, ce match-là, on avait gagné. Hein. On avait ouais. battu les États-Unis, il me semble, hein. Il me semble si je me rappelle bien.
Et avec Pioline?
Alors, Pioline, l'anecdote avec Pioline, elle va être marrante parce que je vais pas te parler trop de jeu. Je vais te parler de... Il avait une raquette à l'époque, une Prince Blanche, qui était fabriquée en fer, je crois. Tu vois? Très léger, mais en fer. Et l'année où on a joué, ils expérimentaient des... Il n'y avait pas de juge de ligne sur les lignes. Ils expérimentaient un genre de laser qui est annoncé la balle faute ou la balle bonne.
Ah oui, d'accord.
Tu vois?
Ok. Okay.
Et lui, avec sa raquette... Ouais, voilà. Et lui, avec sa raquette, à chaque fois qu'il passait sur la ligne avec un coup, ça bipait.
Ouais, d'accord.
C'était un truc de dingue. Ouais. Donc, du coup, pour lui, on a été obligé d'arrêter ce truc, tu vois, et qu'il joue avec des arbitres parce que sinon, ça bipait tout le temps. Dès qu'il passait une ligne, ça bipait. La ligne de service, boum, ça bipait. La ligne du fond, boum, ça bipait. Enfin, tu vois, c'était,
relou, ouais.
c'était incroyable,
ouais.
quoi.
Ouais, ouais.
Donc, du coup, lui, à chaque fois qu'il jouait, il y avait les arbitres et on a joué avec des arbitres, en fait.
Et toi, quand tu te souviens quand tu as découvert les nouvelles raquettes, parce que tu as découvert, enfin, tu as commencé le tennis avec du matos d'un autre temps, et tu te souviens à chaque fois le regard que tu avais à chaque nouveauté, chaque nouveau matériel, enfin, technologie, tout ça.
Ouais, on était à l'écoute, tu vois, des nouveautés, parce qu'on savait que ça pouvait énormément nous apporter déjà.
Ouais.
Les raquettes étaient plus légères, donc ça, tu vois, au niveau du bras, la maniabilité. C'était quand même pas mal, quoi. Moi, franchement, les nouveautés que j'ai eues avec Kinex, j'ai toujours essayé, même des cordages. Ils avaient essayé des cordages très serrés, tu vois, des cordages comme ça, j'avais essayé avec. Après, ils ont fait, moi, la dernière raquette avec que j'ai joué, l'anti-vibrateur, il était dans la raquette, donc j'avais même pas besoin de mettre un anti-vibrateur sur mes cordages, tu vois. Et
des raquettes bien.
Très confortables. Ah ouais, ça ouais. marchait super bien. Ça s'appelait le système kinétique et ça marchait super bien. D'ailleurs, je crois qu'ils continuent. Hein, ils ont toujours ces raquettes-là. Hein.
Et tu cordais avec du boyau ou pas?
Oui, à l'époque, ouais. oui. Que du boyau. Là, aujourd'hui, non. Mais à l'époque, oui, j'avais que du boyau.
Et le boyau, on est d'accord, c'est les joueurs qui payaient tous leur bobine de boyau. Ça, c'est...
Alors, au tout début, oui. Mais après, moi, je ne les payais plus.
Ah, d'accord. Okay.
On me les donnait. Ouais.
C'est bon.
J'avais un contrat avec, à l'époque, Baba Bola, déjà, rien que pour les cordages.
Ok. Est-ce que tu as côtoyé un peu le Big Three, comme on l'appelle, Roger, Rafa et Djoko? Est-ce que tu les connais un peu personnellement?
Roger un petit peu. Ouais. Roger un petit peu, parce que je ne veux pas dire qu'il n'est pas tout jeune, mais c'est un peu vrai. Mais je veux dire pour le circuit, mais moi, j'espère qu'il va continuer encore un peu.
Ouais, on espère tous.
Voilà, mais c'est vrai que Roger me dit bonjour.
Ouais.
Tu vois, quand je le croise tout le temps, j'ai joué avec sa femme. Enfin, je veux dire, on s'est connus un petit peu sur le circuit, quoi.
Avec Pirka, ouais.
Ouais. Et en fait, il a eu ses premières jumelles en même temps que moi. Moi, j'ai eu des jumelles. Il a eu ses jumelles à 15 jours d'intervalle.
Excellent.
Donc, un jour, je me suis retrouvée à un truc chez Nike, parce que j'accompagnais ma joueuse qui était chez Nike. Et je me suis retrouvée avec lui à faire une photo. Et on en a parlé, tu vois. Je lui dis, tu sais que mes jumelles ont le même âge que tes jumelles. Ah bon, et tout. Et on en a parlé comme ça, tu vois, et on s'est marré. Et donc, maintenant, chaque fois que je le vois, toujours bonjour, très gentil. Enfin, voilà, quoi.
Et quel est ton regard d'experte sur ces trois monstres?
Ils ont amené le tennis très haut. Enfin, moi, j'adore Federer. Je veux dire, sur le plan tennis, pour moi, il n'y a pas mieux aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Nadal, dans le sens où quand il a commencé sa carrière, j'aimais pas son tennis.
Ouais.
Après, je faisais pas trop attention sur la personnalité qu'il avait. Et au fur et à mesure, je dirais qu'il a pris de l'âge, qu'il a avancé dans l'âge, qu'il a amélioré son tennis, qu'il a énormément apporté au tennis. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'on sent que c'est un passionné, qu'il adore ça. Et il a su transformer son tennis, transformer son physique pour rester là où il était et être toujours dans les trois meilleurs joueurs du monde, voire un des meilleurs joueurs du monde. Ou le meilleur aujourd'hui, peut-être sur terre battue, c'est encore d'utilité. Enfin, je veux dire, il n'a pas perdu, quoi.
Ouais.
En roulant, en tout cas. Et après, sur les autres surfaces, oui, là, c'est un peu différent. Mais enfin, il est toujours là, c'est un gentleman. Même quand il perd, c'est un gentleman.
Il a perdu contre Söderling quand même à Roland, je te rappelle.
J'étais là, j'étais sur le terrain. J'étais dans la tribune présidentielle et je venais d'arrêter ma carrière et j'étais dans la tribune présidentielle et je me rappelle, j'ai tout de suite dit, il n'est pas bien aujourd'hui, il ne va pas gagner. Je voyais ses balles rebondir dans le carré de service, c'était pas le Nadal qui faisait gicler la balle, quoi. Et par contre, l'autre jouait très bien.
C'était monstrueux. Et le Joker? Qu'est-ce que t'en penses?
Le Joker, je suis admirative aussi de la carrière qu'il fait, je veux dire, je peux pas. Mais il y a des fois ses attitudes sur le terrain et tout, ça me gêne.
D'accord.
Voilà. Mais après, je le regarde jouer, j'aime bien le regarder jouer. Il y a des matchs qu'il a fait contre Nadal, Federer, qui sont fabuleux. Mais j'ai un peu de mal. Je sais pas pourquoi. Hein. Après, je le connais pas. C'est peut-être quelqu'un de très bien, de très gentil. Je lis aussi des trucs dans la presse qui, des fois, me gênent un peu. Bon, voilà. Mais ça, c'est mes opinions à moi. Voilà.
Ouais. Tu m'as dit que tu avais fait des workshops sur le revers à une main. Est-ce que Roger est déjà venu te voir en disant, Nat, comment je peux prendre un peu plus tôt? comment je peux être plus efficace?
Non, mais je pense qu'il a un staff. Il a un staff qui a su très bien faire évoluer son revers. Et l'année où il a été blessé, il s'est fait opérer du genou, il a vraiment... Il a pris ça à bras le corps, ce problème qu'il avait un petit peu en revers. Maintenant, il est injouable en revers, aussi bien en revers qu'en tournoi.
Ouais, c'est incroyable quand il revient.
Et pareil chez Nadal. Nadal a fait énormément progresser son revers.
Ouais, clairement. Est-ce que tu as ressenti cette petite mort intérieure au moment de prendre ta retraite?
Oui, on la sent toujours. Mais c'était voulu, cette retraite. J'en pouvais plus, quoi. Physiquement, mentalement, j'étais fatiguée. Donc, oui, on le sent. On sent qu'elle est là, quoi, et que c'est fini, qu'on ne va plus vivre les mêmes choses, les mêmes sensations. Mais bon, quand tu as 34 ans et que tu as déjà fait 17 ans sur le circuit et que tu commences à avoir envie d'autre chose, voilà, ça passe plus facilement, on va dire. Disons que c'est moi plutôt qui ai choisi ma retraite. plutôt que me dire, j'avais pas envie de faire l'année trop, me retrouver, tu vois, 50, 100, ramer, perdre, être, tu vois, se dire, bon, bah ouais, je prends un an, je voyage, je me balade, machin, mais je fais plus trop attention à mes résultats. C'était pas mon truc. Voilà.
Ouais. Faire que du double, pareil, pas ton truc.
Ben, j'ai joué un peu de double cette année-là. On m'a demandé d'en faire plus. J'ai dit non, je me sens pas. Et puis bon, j'avais un autre souci. J'avais mon papa qui était très malade, voilà. Et je voulais passer un peu de temps avec lui quand même.
Et pourquoi toi, t'as réussi? Est-ce que tu le sais avec du recul? Pourquoi pas les centaines de milliers de joueuses qui essayent et toi, t'as réussi?
Alors, il y a 10 ans, je t'aurais répondu ma bonne étoile, quelque chose comme ça, ou j'ai eu de la chance, ou voilà. Non, mais je pense que quelque part, je suis une besogneuse, je travaille, je suis une passionnée par ce jeu. J'ai fait les bons choix de choisir ce jeu-là parce que j'adorais ça. Et je pense que je suis quelqu'un de très pragmatique, donc ça m'a aidée. Je suis quelqu'un qui m'adapte très, très bien. Donc, je pense que ça m'a aidée. J'avais quelques côtés qui faisaient que je pouvais peut-être réussir quelque part dans le haut niveau.
C'est quoi ces côtés-là? Mentaux, notamment, non?
Je lâche rien. Tu vois, quand j'ai un objectif, j'essaie d'aller au bout. Je lâche pas grand-chose. Je suis perfectionniste, l'air de rien. Donc, peut-être que tout ça, ça m'a aidé. Voilà, ces valeurs-là m'ont aidé à réussir, tout simplement. Quand tu es passionné par quelque chose, essaye de donner le meilleur de toi-même à chaque fois, même si des fois, ça a été dur, hein. J'ai eu des périodes difficiles, mais j'ai jamais lâché.
C'est bon, ça. De tes 13 ans à ta retraite en 2003, donc à 35 ans, tu as eu le même entraîneur. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir une telle longévité?
On a évolué ensemble. J'avais pas l'impression que... Si, à un moment donné, on avait l'impression qu'on était un petit peu dans une impasse, et il a su aussi se remettre en question, tu vois.
Ouais.
Donc ça, c'était important, je pense, c'est important. Après, je pense que ça, voilà, ça s'est fait comme ça. On était bien ensemble. On a su évoluer. Moi, j'avais pas besoin de changer. Je me sentais bien. Je suis quelqu'un de très fidèle. Donc voilà, j'ai eu le même entraîneur, j'ai eu le même agent, j'ai eu le même préparateur physique pendant très longtemps. Donc voilà, quand je suis bien, je vois pas la nécessité de changer. Et en plus, j'ai évolué toujours. Donc voilà.
Mentalement, t'as fait de la prépa ou pas forcément?
Non. Pas bon. Non, franchement, j'ai fait à un moment donné, j'ai fait un tout petit peu de sophrologie, mais après, non.
Ok. Et aujourd'hui, du coup, sur l'après-carrière, à quel point tu t'aimes le coaching et tu te trouves à ta place dans ce métier-là?
J'ai toujours aimé transmettre. Alors, tu vois, quand je coach, évidemment, j'essaye de transmettre ce que je connais le mieux au niveau tennis, que j'essaye aussi d'apprendre encore des nouvelles choses. Aujourd'hui, tu vois, je me suis formée un petit peu plus sur le mental aussi. Voilà, pour aider au maximum les joueuses que j'entraîne. Je me fais plaisir, voilà, tout simplement. J'aime faire ça, je me fais plaisir. Le tennis, pour moi, c'est ma vie. Voilà, c'est ma vie. Il m'a énormément apporté. Aujourd'hui, j'essaye de rendre ce qu'il m'a apporté. Et en même temps, j'ai du mal à quitter le terrain, quoi.
Ouais.
Alors, je sais que je ne joue plus, que je ne vais plus jouer à un haut niveau. Donc, les jeunes que j'entraîne, j'essaie de les amener le plus haut possible de leurs possibilités pour qu'elles puissent s'épanouir le mieux possible, comme moi, j'ai pu m'épanouir, quoi.
Tu penses que tu joues encore combien aujourd'hui?
Ouh, alors ça dépend des jours et ça dépend du physique que j'ai à l'heure où je vais jouer. Et non, mais le problème, c'est que je joue plus beaucoup, tu vois. Donc, je pense que je joue encore 2-6 peut-être.
Ah, ok. C'est bon, ça. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Est-ce que tu aurais un livre qui a changé ta vie et que tu recommanderais aux auditeurs de lire?
Je lis pas beaucoup. C'est ça mon problème.
Joker?
Les quatre accords d'Toltec.
Toltec, ouais. Yes. Mm. Je le mettrai en description. En quoi il t'a marqué?
Bah, il m'a fait un peu changer de... Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui doute quand même pas mal. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il m'a bien aidé là-dessus. Et c'est un des premiers livres que j'ai lus quand j'ai commencé à faire ma formation un petit peu sur le coaching en entreprise, les choses comme ça. Et on m'avait dit, tiens, ce serait bien si tu lisais ça. Et en fait, il y a certains trucs où je me suis retrouvée et je me suis dit, tiens, c'est dommage que je n'ai pas lu ça 20 ans ou 30 ans avant, quoi.
Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière?
De s'adapter en toutes circonstances.
Tu penses à une situation, un exemple en particulier?
Non. Non, tu sais, quand tu vis ce métier où tu voyages beaucoup, tu toutes les semaines, tu n'es pas au même endroit, tu es obligé de t'adapter en permanence. Si tu n'as pas ça, tu j'oublie.
Et toi, si tu avais un conseil en particulier à une jeune joueuse ou un jeune joueur qui rêve de devenir pro, tu lui dirais quoi ?
D'y croire tout le temps, de jamais rien lâcher. Si vraiment elle veut y arriver, il n'y a pas de raison que si elle a l'entourage qui lui convient, parce que ça aussi c'est important, hein. Tu peux prendre n'importe quel entourage, mais il faut quand même qu'il te convienne à toi.
Ouais.
Si tu prends le bon entourage, si tu travailles bien, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, tu n'atteins pas ton objectif. Quoi.
Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ?
Alors, oui. C'est une citation de Nelson Mandela. « Je ne perds jamais, j'apprends toujours » ou quelque chose comme ça.
Ouais, soit je gagne.
C'est ça,
soit je...
Voilà, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé.
C'est bon ça. Très bien. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommanderais, avec laquelle tu nous recommanderais de faire un épisode et que tu pourrais nous aider à avoir, avec laquelle on pourrait parler tennis ?
Ma copine, Alexandra Fusée.
Ah, bah super ! Génial ! Tu aurais une question du coup à intégrer dans son interview que je peux...
Alors, tu dis bien que ça vient de moi, alors.
Bien sûr, je le dis, évidemment.
La seule balle que j'ai prise dans le dos, c'est de sa part.
Ouais.
Quand on joue en double ensemble, donc tu lui poseras la question de ma part, est-ce que vraiment tu as voulu me viser, quoi ? Parce qu'elle aurait voulu le faire, je pense qu'elle m'aurait raté.
Ok.
Et surtout, c'est qu'une fois qu'elle m'a touché, derrière, elle a pas joué pendant 4-5 jeux, quoi.
Ah ouais,
alors que tout allait bien, hein. Tout allait bien, j'avais rien.
Le meilleur souvenir que tu as avec Alexandra?
Oh, avec Alex, j'en ai pas mal. Ben, je dirais, un des meilleurs souvenirs, je pense que, je sais pas si elle dira la même chose, mais je pense que c'est le premier tournoi, en fait, qu'on a gagné ensemble.
Ok.
On a joué par hasard ensemble. Moi, je l'ai appelée, elle était en Australie, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien jouer avec toi cette année. Est-ce que tu penses qu'on pourrait commencer à jouer à Linz? Alors, elle me dit, ouais, je sais pas, tu comprends, j'ai peut-être quelqu'un, machin. Je lui dis, écoute, tu réfléchis, puis tu me rappelles. Ouais. Elle m'a rappelé tout de suite et elle m'a dit, je joue avec toi et on joue ce tournoi, on le gagne. Donc, c'était plutôt bien parti. On a décidé de jouer ensemble, on a joué 3 ans ensemble.
Elle jouait à gauche, toi à droite ou l'inverse?
Non, moi à gauche, elle à droite.
Tu étais à gauche, donc revers extérieur, ouais, ça te faisait pas peur, quoi.
Revers à une main, non. Au contraire, j'étais très bien.
Tu prenais tôt? Tu faisais comment au retour?
Ouais. Bon. J'ai beaucoup progressé au retour grâce au double.
Ouais. Eh ben, big okay. Merci, Nat, d'avoir pris le temps, d'avoir joué le jeu. Si on veut te.
Désolé de le faire en deux fois, hein, mais.
Non, c'était top. Si une joueuse ou un joueur
veut
te contacter, qu'est-ce que je mets comme. Comment on peut te contacter? Si on veut des conseils sur le revers à une main, par exemple.
Bah, tu as mes coordonnées. Tu donnes mes coordonnées, j'ai pas de problème.
Ok. Un mail peut-être, non? Je sais pas.
Oui, mon mail c'est tosia@mi.com.
Bon, eh ben merveilleux, je mettrai ton mail.
Facile.
Ouais, super. Si je te croise aux 5 cantons, je viendrai te faire un coucou.
Il y a pas de problème.
Cool. Allez, à la prochaine.
Voilà. Merci, bye.
Salut Nat, ciao ciao.
Merci jeune légende d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était un bonheur pour ma part d'avoir découvert le parcours incroyable de Nathalie et de me plonger dans l'un des plus beaux palmarès du tennis français. Je suis impressionné par la force mentale dont Nat a fait preuve pour accepter de changer de style de jeu à 27 ans, en faisant déjà partie de l'élite du tennis mondial, pour finalement réussir à accéder au gratin 2 ans plus tard. Viens me dire en commentaire ce que tu as pensé de son parcours et de son récit, ça fait toujours hyper plaisir de te lire et d'avoir ton retour. Pense à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un like sur YouTube, à t'abonner au compte et à transférer l'épisode à une personne que ça peut inspirer. Le bouche à oreille nous aide comme jamais à grandir. Tu peux aussi faire une story Instagram pour faire connaître notre travail aux gens qui te suivent, on te repostera. Sache que la seconde masterclass avec le coach Sam Sumik est disponible. C'est un cours de plus d'une heure, divisé en 9 parties. Sam nous met à disposition ses 15 années de circuit et son impressionnant palmarès pour réussir à comprendre son joueur, à mieux négocier tes périodes de crise, à gérer au mieux la communication dans une équipe, à maîtriser tes émotions, dépasser tes blocages mentaux, techniques et physiques, à te fixer des objectifs ou encore à mieux préparer et débriefer tes propres matchs. On a mis en place un système d'abonnement pour recevoir un nouveau cours avec un expert du circuit tous les 15 jours. Et si tu veux recevoir la masterclass de manière indépendante, c'est aussi possible. Soit le premier lien juste en dessous en description, sinon écris-moi à max@tennislegende.fr. Et si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, t'as les 4 secrets de statisticien enregistrés avec Fabs Barreau, qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniil Le Tsar. Tu vas grimper au rideau grâce à la stat, en comprenant mieux que jamais ton style de jeu. Récupère aussi les 14 conseils du prépa mental Jean-Phi Vaillant. Tous les liens sont juste en dessous de description. J'espère que le hors-série sur le plus gros tournoi challenger du monde, à savoir l'Open d'Orléans, t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour sur ce genre de contenu, je suis hyper curieux de savoir ce que t'en penses. Sache que tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee, je suis full-time sur le podcast depuis maintenant plus d'un an, et le but est de m'y investir encore davantage. Vos retours sont hyper cool et c'est adorable de contribuer chacun à sa manière. Tu peux le faire à hauteur de 2 euros sur un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Et si tu as une idée de projet, de questions à poser à nos invités ou autres, viens m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max E-T-M-I-A-M-I-A. Je réponds à tous vos messages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les légendes. À très vite et prenez soin de vous. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.